Relire avec, qui est donc une collaboration entre la Bibliothèque publique d'information, Catherine Blangonnet, et les revues parlées. Le principe étant, je pense que ceux d'entre vous qui sont là le savent maintenant, le principe étant d'inviter un lecteur, alors un lecteur qui est choisi pour, disons, des compétences particulières, un lecteur à parler d'un écrivain qu'il aime, et avant la projection de ce film. Quand on a demandé à Bernard Comment s'il voulait participer à ce cycle, on avait imaginé qu'il pouvait parler d'un auteur suisse, et pas du tout, il a proposé Jack Kerouac. Donc Bernard Comment, éditeur, écrivain, traducteur, éditeur de Au Seuil, hein, c'est lui qui dirige la collection Fiction et compagnie, comme vous le savez sans doute. Et donc, son dernier livre paru, c'est Éloge de l'ongle, édition Jocasseria, Triptyque de l'ongle, Triptyque de l'ongle chez Jocasseria. Et ben, je lui donne la parole. I think of Dean Moriarty.
Voilà, comme il n'y a pas toujours des archives sonores sur les écrivains qui se lisent eux-mêmes, je pensais que ce n'était pas inutile de donner la tonalité de cette soirée avec cette lecture donc, d'extrait de On the Road, sur la route, par Jack Kerouac lui-même. Je vous donne juste, par rapport à ce qu'il vient de lire, la fin dans la traduction française. Ainsi donc en Amérique, quand le soleil descend et que je suis assis près du fleuve sur le vieux quai démoli, contemplant au loin, très loin, le ciel au-dessus du New Jersey, et que je sens tout ce pays brut rouler en bloc son étonnante panse géante jusqu'à la côte ouest et toute cette route qui y va, tous ces gens qui rêvent dans son immensité, et dans l'Iowa, je le sais, les enfants à présent doivent être en train de pleurer dans ce pays où on laisse les enfants pleurer. Et cette nuit, les étoiles seront en route, et ne savez-vous pas que Dieu, c'est le grand ours et l'homme orchestre, et l'étoile du berger doit être en train de décliner et de répandre ses pâles rayons sur la prairie, elle qui vient juste avant la nuit complète, qui bénit la terre, obscurcit tous les fleuves, décapite les pics et drape l'ultime rivage et personne, personne ne sait ce qui va arriver à qui que ce soit, n'était les mornes misères de l'âge qu'on prend. Alors je pense à Dean Moriarty, je pense même au vieux Dean Moriarty, le père que nous n'avons jamais trouvé, je pense à Dean Moriarty. Voilà, cette vision finale de Sur la route, avec ce motif très important, très central chez Kerouac, qui est au fond l'arpentage du terrain, du territoire américain, qui est, même s'il a connu des épisodes de marin, mais qui est quand même un arpentage strictement terrien, terrestre, et précisément un territoire qui est bordé et limité par les océans qui le bordent. Petite note d'ailleurs, dans cette fin, il y a cette étrange formule dont on ne sait pas très bien quel sens lui attribuer, qui est un ajout tardif de Kerouac, puisqu'il parle justement de Dieu qui est... Alors ici, la traduction, c'est le grand ours, mais Pooh Bear, c'est plutôt nounours, quoi. C'est cette espèce de vision de Dieu en nounours, qui est une espèce de déconnade finale que Kerouac ajoute à son texte. Ce que je constate très souvent quand il m'arrive d'évoquer Kerouac, c'est un peu de stupeur dans le regard de mes interlocuteurs, qui ont l'air de trouver bizarre que je puisse m'intéresser sérieusement à Kerouac, c'est-à-dire autrement que comme un élément, ou disons un élément folklorique. On ne peut pas dire que Kerouac soit un inconnu, c'est même le moins qu'on puisse dire. Quelques dates, il est né en 1922 à Lowell, Massachusetts, dans une famille de Canucks. Les Canucks, c'est franco-canadiens qui ont émigré au fin du 19e siècle, début du 20e siècle, dans la proche Amérique, pourvoyeuse de travail. La mère s'appelle Gabrielle Lévesque, le père s'appelle Léo Kerouac, il y a une sœur, Caroline, dite Nine, et surtout, il y a la figure tutélaire et longtemps écrasante d'un frère aîné, Gérard, atteint d'une maladie congénitale au cœur et qui décède à l'âge de 9 ans, quand Jack Kerouac en a 4. Je vais revenir sur ce cadre familial. Mais le fait est que Kerouac, après un premier livre publié au début des années 50, « The Town and the City », et là, il faut malheureusement constater la stricte idiotie de la traduction française qui présente ce livre sous le titre « Avant la route », alors que ça n'a absolument rien à voir. Enfin, c'est d'emblée une déformation coupable, puisque ça situerait le point de gravité et de référence systématique de toute l'œuvre de Kerouac avec cette idée de la route, et que tout ce qui précède ne pourrait être jamais que avant la route, alors que le titre est très important. The Town and the City, c'est l'opposition de deux univers très différents qui vont être au cœur souvent d'un désarroi et d'une déchirure chez Kerouac. D'un côté, The Town, c'est-à-dire disons la ville moyenne, la ville habitable, la ville où on connaît ses voisins, où on a un réseau familial, où l'étendue de la ville n'échappe pas à la maîtrise même de l'enfant, c'est Lowell. Et puis The City, c'est la ville tentaculaire, c'est la ville où on se perd, c'est la ville fascinante aussi, bien sûr, qui est New York. Donc, il publie en 1950 The Town and the City, et il devra ensuite attendre 7 ans pour voir l'apparition de son deuxième livre, On the Road. Nous sommes en 1957. Le succès est alors retentissant. Le livre devient mythique. Il y a une très belle description par Joyce Glassman qui raconte comment, la veille de la sortie du livre, le livre sort en librairie le 5 septembre 1957. Et la veille, vers minuit, ils vont autour de la 60e rue à l'angle de Broadway avec Kerouac pour acheter l'édition toute chaude du New York Times, parce qu'il y a un papier qui sort. Et c'est là que le critique du New York Times lance en quelque sorte la carrière de ce livre, puisqu'il salue le livre d'une génération. La génération qui fait suite à la Lost Generation de Hemingway et qui va prendre très vite le nom de Beat Generation. Donc, succès absolument énorme qui va achever et constituer l'éclosion de cette génération mythique, la Beat Generation, qui voit déjà le jour un peu avant, non pas avec The Town and the City, qui est un livre de facture beaucoup plus classique, mais avec le retentissant succès de la lecture de Allen Ginsberg en 1955 à San Francisco, qui lit, et c'est une véritable secousse, qui lit Hall, qui est l'irruption comme ça d'une nouvelle voie dans la littérature et dans la poésie américaine. Eh bien, la publication de On the Road est le deuxième mouvement de ce mouvement qu'on pourrait aussi appeler le KGB, hein, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Burroughs étant lui l'auteur assez vite de Junkie et un peu plus tard de The Naked Lunch, le festin nu, titre d'ailleurs magnifique, The Naked Lunch, que Kerouac trouve et qu'il offre à Burroughs. Il y a aussi beaucoup d'amitié dans cette Beat Generation, puisque Kerouac avait la particularité de taper très très vite à la machine. D'ailleurs, Truman Capote va avoir des mots un peu malencontreux en disant que, en le traitant d'écrivain typographique ou dactylographique. Toujours est-il que Kerouac va taper l'ensemble du manuscrit de The Naked Lunch quand il se trouve à Tanger auprès de Burroughs. Donc, on peut dire que On the Road, c'est effectivement l'événement majeur qui voit l'éclosion de ce mythe de la Beat Generation. Pour le plus grand malheur de Kerouac, d'une certaine façon, malheur que, d'une certaine façon, il subit encore aujourd'hui. Puisque précisément, on ne verra en lui souvent qu'une icône, et cette icône générationnelle va masquer l'énorme et très très singulier écrivain qu'il est, qu'il demeure, et sur lequel j'aimerais justement m'arrêter un peu aujourd'hui. C'est vrai que 1957... Il a 35 ans. Ça pourrait être une formidable carrière qui s'ouvre à lui. Ça n'est que le début d'un long malheur et d'un enfoncement dans l'alcool. À un moment donné, il dit que, étant catholique, il ne peut pas choisir la voie du suicide et que donc il choisit ce qu'il appelle de façon assez belle la voie lente. Et cette extinction progressive dans les années 60 est quelque chose à la fois très poignant et inexorable. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette version de 1957 est le compromis de beaucoup d'interventions éditoriales. Je veux dire que quand on se plonge dans l'œuvre, la vie, la carrière de Kerouac, le métier d'éditeur n'est pas forcément toujours très enviable, puisque là, ces éditeurs, ils jouent un rôle assez coupable à plusieurs reprises. Ce qu'on peut dire, c'est que les premières ébauches ou versions de On the Road datent de 1948, peut-être même de juillet 47, quand il fait son premier voyage, il remplit déjà des carnets, premier voyage vers l'Ouest. C'est l'époque où il finit d'écrire The Town and the City, et le 23 août 1948, il note... Je cite, « J'ai un autre roman en tête, On the Road, auquel je continue de penser. Sur deux gars qui font de l'autostop jusqu'en Californie à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouvent pas vraiment et qui se perdent sur la route et qui font tout le chemin de retour plein d'espoir d'autre chose. Aussi, je suis en train de trouver un autre principe d'écriture. » On est en août 48. Il y a de très nombreuses esquisses ou version ou ébauche de On the Road, toutes articulées autour du mythe de l'Ouest et de la découverte des grands espaces. Toutes ces versions maintenant sont recueillies à la New York Public Library, où il y a eu, à l'occasion des 50 ans de la publication de Sur la route, c'est-à-dire en 2007, à la fin de 2007, une extraordinaire exposition consacrée à Kerouac, dont on peut... espérer, voire suggérer qu'elle vienne un jour en France et à Paris. Donc, il y a toutes ces esquisses de 40 à 51. En 50, il y a... Alors, toutes les esquisses, c'est vraiment toujours la découverte, partir à la découverte de l'Amérique et d'une Amérique qui est en train de perdre son âme, de perdre sa spiritualité et de verser dans un consumérisme effréné. En 50, il y a un autre thème qui monte très fort, très puissamment, qui est le thème du père, avec un fils qui part jusqu'au Mexique à la recherche de son père disparu en compagnie de son cousin. Le 2 avril 1951, Jack Kerouac se met à la machine et engage le rouleau, si on peut voir la première image. Voilà, vous avez là le début de ce rouleau. Ce qu'il faut rappeler, c'est que donc il y a eu plusieurs versions avant, mais là c'est vraiment la première version, et il récupère des feuilles de dessin. C'est assez extraordinaire les conditions dans lesquelles il travaille, c'est-à-dire que il est à New York et il a un ami qui meurt dans un accident de métro qui s'appelle Canastra. Et il va s'installer dans l'appartement laissé vide par la mort de cet ami, où il trouve des feuilles de dessin, d'assez grandes feuilles de dessin. Et il va prendre ces feuilles de dessin, assez fines, et il va les découper en calculant bien, c'est très artisanal, il calcule bien la largeur du rouleau de sa machine à écrire. Il va les découper, il va les coller l'une à l'autre, et il va confectionner lui-même un long rouleau de plusieurs dizaines de mètres. C'est pas du tout un rouleau de telex comme on l'a écrit longuement dans les biographies consacrées à Kerouac. C'est lui qui confectionne ce rouleau. Il l'engage dans la machine à écrire et il n'aura pas à changer les feuilles. Il n'aura pas à recharger sa machine. Il va pouvoir aller au bout de son intention, qui est celle justement du flûment, de ce flux continu de langage. Et c'est là le tout début de ce rouleau. Il faut imaginer quelqu'un qui a une quantité de carnets, de notes, d'ébauches, comme je l'ai dit, depuis 3 ans, 4 ans, et qui tout à coup comprend que le moment est arrivé. Et ce que je trouve absolument magnifique, c'est qu'au moment où il engage ce papier, où il démarre un marathon sprint qui va durer 3 semaines, où il se donne les conditions justement de cet écoulement, eh bien sur la première ligne, il y a le seul lapsus de tout le tapuscrit de cette version qu'on appelle la version du scroll, du rouleau, c'est « I first met, met ». C'est-à-dire il répète le mot sur la première ligne, comme s'il y avait un bégaiement initial qui prélude à ce grand déversoir que va être l'écriture de cette version appelée le scroll. Vous voyez que l'état de conservation est relatif, mais enfin on a l'intégralité sauf les dernières pages de ce scroll, puisque après avoir écrit en 3 semaines l'ensemble de ce tapuscrit, Kerouac a des problèmes avec sa femme. Il écrit ça au domicile de sa deuxième femme. Il a des problèmes, c'est-à-dire que ou elle a des problèmes avec lui. Bref, il rentre un jour chez lui, il la trouve au lit avec quelqu'un d'autre. Il s'en va avec son rouleau et il va chez son ami le Shunkar. Et il l'entreprend dans des circonstances, ou pour les raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure, de retaper l'ensemble. Et, sauf que le Shunkar a un chien et le chien va manger les 10 dernières pages du rouleau qui ont disparu dans cette version première. Voilà, donc, au seuil de cette formidable coulée d'écriture, qui est quand même l'équivalent de 400 à 500 feuillets, au seuil, il y a ce merveilleux, à mes yeux, merveilleux bégaiement du met-met, qui est tout de même assez révélateur. Nous sommes donc le 2 avril 1951, et il finit de taper son texte le 22 avril. Tout cela donc dans l'appartement de sa femme, John Haverty. Je pense qu'il faut se méfier de ces dates, qui sont vite des dates mythiques, trop précises, pour ne pas cacher quelque chose. Il y a, j'ai toujours rêvé d'ailleurs de faire une recherche, ou que quelqu'un fasse une recherche ou un livre, sur ces dates mythiques, ces espèces de chemins de Damas qui parcourent l'histoire de la littérature. Il y a toute la construction, vous voyez, pour le coup très mythique, que fait Barthes sur Proust, à propos de l'année 1909, sous l'intitulé du Sapran, hein, Sapran comme une mayonnaise, avec cette vision que tout à coup, voilà, les années perdues, éparses, inutiles, mondaines, extrêmement mondaines de Proust, tout à coup, en 1909, prennent leur sens. Il y a un changement brutal dans la vie de Proust et il engage l'écriture de La recherche du temps perdu jusqu'à la fin de sa vie. De la même façon, il y a la reconstruction a posteriori que j'ai toujours pensé largement fictionnelle et mensongère de Fernando Pessoa en 1935, qui répond à un questionnaire insistant d'un journaliste et qui tout à coup sort une date qui n'était jamais apparue auparavant, une date de, je crois, juillet 1914, où il dit, voilà, tout à coup à telle date m'est apparue la nécessité des hétéronymes. Mais c'est une reconstruction a posteriori. C'est Conrad qui dit qu'il faut toujours se méfier des reconstructions, des poétiques a posteriori, car elles ne sont jamais qu'un roman ajouté aux autres. De la même façon, il y a chez Barthes, à la fin de Barthes, dans ses carnets pour une Vita Nova, c'est-à-dire l'hypothétique dernier livre ou roman ou grand album qu'il aurait dû écrire, là aussi, une date mythique qui est ce qu'il appelle toujours la décision du 15 avril 1978. Eh bien, au fond, ces dates du 2 au 22 avril pour Kerouac ont le danger de tous les mythes. C'est-à-dire que c'est à partir de cette idée qui s'est évidemment très vite colportée, sans doute parce que les éditeurs y voyaient un intérêt de marketing ou publicitaire, c'est colporter l'idée que On the Road avait été écrit précisément en 3 semaines. Alors que ça n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est préparé très longuement, qui avait son texte en tête, qui s'était inscrit dans sa tête avec les ébauches successives, et c'est parce qu'il est préparé, imbibé de tout ça, qu'il y aura cette sortie, cette coulée de texte en 3 semaines. Mais de là vient sans doute un malentendu persistant qui veut voir en Kerouac l'auteur de ce qu'il a lui-même qualifié de prose spontanée. Mais cette spontanéité est absolument le contraire de quelque chose qui serait non préparé. De la même façon, Kerouac est imprégné de lecture. Il connaît tout Shakespeare par cœur. Il a lu tout Stendhal en français, il a lu tout Proust, il charrie des masses de textes avec lui. Et je dirais que c'est comme s'il avait toute cette culture, toutes ces lectures et toute cette littérature, à même le nerf de l'écriture, à même le nerf de la main qui écrit et qui l'accompagne en permanence. Mais tout de même, précisément, il y a ce bloc de textes, puisque vous voyez là le début, eh bien, le rouleau qui fait une 50aine de mètres, ça n'est que ça. C'est-à-dire, il n'y a aucun paragraphe, aucun chapitre. Il commence avec ce bégaiement et il ne s'arrêtera plus. Et tout le texte est comme ça, c'est coulé, ce bloc. Malheureusement, l'éditeur à qui il amène, il est très fébrile quand il a fini ça, il va voir l'éditeur américain à New York. Et l'éditeur ne prend même pas l'objet. Lui dit, mais jusqu'à preuve du contraire, les livres ne sont pas des rouleaux, et l'oblige, avant même d'avoir lu 2 lignes, à tout retaper. Ce que Kerouac va faire de façon assez docile. Il y a quelque chose d'humiliant et de terrible d'ailleurs dans le traitement qui est réservé pendant toutes ces années à Kerouac. Il va tout retaper, mais il a été porteur de cette formidable énergie où, pour la première fois, il trouve sans doute sa voix, et une voix évidemment qui, dans son glissando, dans son coulé, doit beaucoup au jazz. J'y reviendrai. Cette publication du Scroll est récente aux États-Unis et en Angleterre, puisque c'est sorti justement à l'occasion des 50 ans de On the Road. Voilà, c'est le Original Scroll. Et elle paraîtra l'année prochaine, au printemps prochain, aux éditions Gallimard. Petit à petit, on arrive à se faire une idée de l'œuvre et de ses coulisses. Il y a bien sûr Sur la route, qui jusqu'à ce jour, il faut bien le dire, est quand même très mal traduit chez Gallimard. C'est un peu mieux parce que ça a été révisé dans l'édition Quarto, mais enfin il y a un nombre de contresens, de termes vieillis. On est quand même très très loin de la vérité du texte. Parmi les livres que je conseille pour découvrir Kerouac et l'extraordinaire écrivain qu'il est, c'est de prendre ce qu'on pourrait presque désigner comme une variante de Sur la route. Je ne sais plus qui a dit, c'est la variante verticale de Sur la route, c'est-à-dire Vision de Cody. Comme vous voyez, le scroll, c'est vraiment l'étendue et la coulée. Vision de Cody, ce sont des fragments, mais qui restituent la vie du même personnage qui inspire Kerouac, à savoir Neil Cassady. Parmi les autres grands livres, il y a évidemment Les Souterrains, j'y reviendrai. Il y a Les Clochards Célestes, encore que personnellement, j'ai un peu plus... Enfin, il y a une partie de Kerouac qui, moi, m'intéresse moins. Je la respecte, mais enfin, elle m'intéresse moins. Je crois que le principe de ces soirées, c'est aussi d'accueillir un peu de subjectivité. C'est le bouddhisme, c'est le Kerouac bouddhiste. Il y a Maggie Cassidy, qui est un très beau livre sur son enfance. Dr. Sachs, Big Sur. Et puis aussi les livres, disons, de poèmes, comme Mexico City Blues, le Book of Blues, le Livre des Rêves. Et le livre des haïkus, qui n'est pas encore traduit. Si on y ajoute la correspondance, désormais disponible aussi en traduction française en 2 volumes chez Gallimard, on peut maintenant, avec le corpus qui est mis à disposition, se faire une bonne idée de l'ampleur de cette œuvre. Il y manque encore le journal, qui n'est pas totalement publié encore aux États-Unis. Il y a un premier volume qui est sorti il y a quelques années sous le titre « One Blonde World ». C'est le journal de 47 à 54. Il y a un deuxième volume qui doit sortir. Et puis, il y a un petit volume qui est sorti il y a un an et demi, assez formidable, qui s'appelle « The Book of Sketches », c'est-à-dire le livre des esquisses. J'y reviendrai. Ce qu'on peut dire, c'est que, précisément, cette œuvre, malgré le succès immédiat de « Sur la route », connaît en permanence des déboires avec l'édition. Il y a les amputations diverses. Je l'ai dit, le manuscrit de On the Road attend 7 ans entre le scroll, 6 ans entre le scroll et sa publication chez Viking. Il y a 6 ans qui s'écoulent d'allers-retours, de faux espoirs. Il y a le problème des avocats qui font supprimer plein de choses pour des raisons de respect de l'intimité, c'est-à-dire qu'il faut changer tous les noms, mais aussi pour des raisons de décence. On est quand même dans une Amérique extrêmement puritaine. Et un certain nombre de mots sont proscrits. Il faut savoir que, par exemple, On the Road subit une dernière toilette chez l'éditeur Viking. Autant dire, justement, des coupes de décence et de normalité par une certaine Madame Taylor, la tailleuse. Ça ne s'invente pas. Le problème de Kerouac est, au fond, un peu comme Baudelaire, c'est qu'on lui enlève ou on lui ajoute, surtout on lui ajoute des virgules. Et c'est ça son drame. C'est qu'on saccage son texte et il se plaint, il y a des lettres très fortes, très violentes dans sa correspondance où il se plaint précisément du très mauvais traitement qui lui est réservé parce que il n'a pas les dernières épreuves. On publie le livre sans lui soumettre les dernières épreuves sur lesquelles, précisément, Madame Taylor a exercé ses talents de tailleuse. Et il ne retrouve pas son livre. Il y a un moment de désarroi total. Eh bien, malgré la grande reconnaissance immédiate qui est donnée à On the Road, Kerouac va avoir ce problème jusqu'au bout. C'est-à-dire, il va être maltraité par ses éditeurs. Traumatisé par cela, il finit par renoncer à un élément constitutif de son écriture, qui sont les tirets. Il met ces longs tirets comme ça, qui ne sont pas des tirets équivalents à ceux qu'on utilise en français, variantes de la parenthèse, mais qui sont des tirets de transition, de coupe et de transition. C'est-à-dire c'est des tirets qui marquent qu'on passe à un autre segment de phrase, à une autre idée, et l'utilisation de ces tirets accentue, rythme et accentue justement le côté glissando de la pensée et de l'écriture. Et dans Vanité de Duluose, qui est un de ses derniers livres, c'est toujours compliqué avec Kerouac parce qu'en fait, il les écrit très tôt ces livres, mais il y en a un certain nombre qu'il finit très tard. Vanité de Duluose, c'est un texte qu'il écrit dans les années 50, quand il n'est pas encore publié, mais qu'il reprend en 1966-67, et il le redéploie en s'adressant à sa femme d'alors. Et il dit, à la première page de Vanité de Duluose, « Puisque personne n'aime mes tirets, je vais m'en tenir à une ponctuation normale pour la nouvelle génération illettrée. » En France aussi, le sort éditorial n'est pas toujours très agréable. J'ai déjà commenté l'absurde traduction de The Town and the City par Avant la route. Sur la route, médiocrement traduit, et qui continue quand même d'être lu dans cette médiocre traduction qui étouffe l'écrivain et fait la part trop belle à la simple intrigue. Une chose absolument renversante, c'est les anges de la désolation, qui s'appelait longtemps Les Anges Vagabonds, et où l'éditeur de Noël avait cru bon de ne publier que la moitié du livre et avait sucré toute la première moitié, c'est-à-dire 300 pages de ce livre qui en fait 600 qui avait été éliminé parce qu'on trouvait ça ennuyeux. Il y a aussi un magnifique texte de Kerouac qui s'appelle Tristessa, qui est une vision de Mexico assez paradoxal. C'est un Mexique, une ville de Mexico où il pleut toujours. Et c'est ses amours désespérés avec une petite prostituée, junkie, qui dans la réalité s'appelait Esperanza et que Kerouac transforme en Tristessa. C'est un texte très fort. C'est un peu l'équivalent mexicain de la Mardou des souterrains. Texte malheureusement lui aussi très mal traduit et indisponible aujourd'hui en français, sinon dans le recueil qui a été publié dans la collection Quarto. Et à ce titre, je voudrais rendre hommage aux éditions Christian Bourgois qui, elles, ont fait un travail admirable dans la traduction de Kerouac, aussi bien pour Mexico City Blues, qui est sorti en version bilingue. Mexico City Blues, c'est l'ensemble des petits chorus que Kerouac écrit. Il se trouve au Mexique et il passe ses après-midi entièrement dans la chambre d'un ami qui fume joint de marijuana sur joint de marijuana et qui cause. Et il l'écoute pas, il est dans cette espèce d'écoute flottante et il écrit rituellement comme ça, dans ce murmure de cet ami qui divague. Il écrit des petits chorus dans un carnet et il s'est donné pour principe de ne jamais dépasser une page. Et il appelle ça des chorus, c'est-à-dire en référence évidemment à Charlie Parker. Et d'ailleurs, le Mexico City Blues se termine par trois magnifiques petits textes qui sont consacrés à Charlie Parker, qui vient à l'époque de mourir. Donc Bourgois, qui a très bien publié Mexico City Blues, et aussi, je pense que c'est peut-être le livre le mieux traduit de Kerouac en français, Les Visions de Cody, justement, par Brice Mathieu-Sant, où là, on trouve toute la force, l'ampleur, la grandeur littéraire de Kerouac qui sont restituées. Malheureusement, par un cruel destin, il semblerait que ce livre ne soit plus disponible actuellement. Je reviens à la vie de Jack Kerouac et à son enfance, parce que je pense qu'il a une vie, au fond, articulée en trois temps. L'enfance, donc, qui est placée sous la figure tutélaire écrasante de son frère Gérard, qui est vécu par sa famille, mais aussi dans son quartier, à l'école et un peu dans la ville de Lowell, comme un saint. C'est une sorte de légende dorée. Et sa mort est un tournant décisif dans la vie de Jack, qui va jusqu'à la fin considérer sa propre vie comme indue, lui ayant survécu à cette perfection morale qu'était son frère Gérard. La mère, d'ailleurs, formidable, culpabilisatrice, même si le rapport est assez compliqué avec elle, parce que c'est en même temps c'est celle qui l'incite à écrire et c'est celle qui veut toujours le ramener à une vie normale, et surtout c'est celle qui en permanence, dans un catholicisme intense, le ramène à cette idée que il n'était pas forcément celui qui devait survivre des deux, et qui fait planer sur lui en permanence la figure de ce frère disparu. D'ailleurs, Kerouac, tardivement, va lui consacrer un livre absolument extraordinaire qui est traversé par toutes sortes de traditions, de références, qui doit beaucoup, sans doute, notamment à la légende dorée, qui est Vision de Gérard, qui est un livre extraordinairement moderne. Au fond, dans son esthétique assez proche des Visions de Cody, comme son titre l'indique, et les Visions de Kerouac, ce sont des fragments, ce sont des apparitions, ce que Barthes, beaucoup plus tard, et à d'autres sujets, appellera peut-être des biographèmes, c'est-à-dire des éléments, des plis de vie, des moments emblématiques, révélateurs, qu'il faut saisir et qu'il faut restituer dans leur instantanéité, donc à travers des visions successives. C'est un peu la reprise, en variation, très renouvelée, de l'exercice très cher à Joyce des épiphanies. Et d'ailleurs, souvent, Kerouac s'inspire ou admet la grande influence de Joyce sur lui. Et c'était un très grand lecteur de Finnegan's Wake. Et c'était aussi quelqu'un qui connaissait des passages entiers de Ulysse par cœur. Donc, il naît dans ce climat familial étouffant, et dans une famille francophone. Je crois que ça, c'est une chose qui est un peu souvent occultée par rapport à Kerouac. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 6 ans, il vit dans une famille et dans une maison où l'on parle français. Et l'anglais, l'anglais de Lowell, c'est l'autre langue. C'est la langue qu'on écoute avant d'en comprendre le sens. C'est la langue qui vient aux oreilles, dont la sonorité traverse les oreilles, avant d'en comprendre intuitivement le sens, comme on comprend le sens d'une langue maternelle. On peut donc, en forçant un peu le trait, classer Kerouac dans ce territoire de la littérature qu'on appelle l'alloglossie, où il y aura des gens comme Conrad, comme Beckett, c'est-à-dire le fait d'écrire dans une autre langue que cette chose toujours énigmatique, empathique, qu'est la langue maternelle. On peut ajouter, je reviendrai sur cette question de la langue française, on peut ajouter que Kerouac est un enfant de la crise. Il est né en 1922 dans un milieu pas forcément pauvre, mais qui va être touché par la crise, c'est-à-dire que son père a une imprimerie à Lowell pendant longtemps, et puis il finit par être tout simplement employé dans une imprimerie, et toute l'enfance de Kerouac va être marquée par une modestie de moyens chez lui, mais aussi par le spectacle de la pauvreté et de la grande crise des années 20. Quand il est jeune homme, le père est quand même assez largement désargenté, et c'est le football américain, qui va lui permettre d'échapper ou de croire échapper pendant un temps à cette condition sociale. La chose est d'ailleurs assez cruelle pour le père, puisque effectivement Jack Kerouac est très bon aussi au baseball, mais en particulier au football, et il est repéré par diverses universités. Il se trouve que l'imprimerie pour laquelle travaille le père est liée à des intérêts catholiques et est liée à une confrérie qui a des intérêts dans l'équipe de l'université de Boston. Et donc, il devrait aller à Boston. Et d'ailleurs, le père est menacé d'être licencié si son fils ne vient pas à Boston. Eh bien, avec le soutien de la mère, il ira à New York et à Columbia University, et le père se fait virer. Et il y a des remarques absolument formidables dans le journal de Kerouac, où il est extrêmement attristé parce qu'il voit que son père, qui continue d'aller dans le Massachusetts pour trouver du boulot, etc., se lève tous les matins à des heures avant l'aube pour faire des 3 heures de train pour aller travailler, parce qu'il a choisi New York et que le père a perdu son boulot. Un peu de la perversion de la mère apparaît dans ce choix. Et en tous les cas, Kerouac arrive donc dans la très prestigieuse université de Columbia, pas tout de suite Columbia, puisqu'il fait d'abord l'école préparatoire de Horace Mann, où il découvre les antagonismes entre les classes sociales, parce que c'est des enfants de la très grande bourgeoisie new-yorkaise. Lui, il fait partie des quelques exceptions d'étudiants qui sont là parce qu'ils ont des mérites sportifs. C'est uniquement pour ça qu'on leur permet d'accéder et qu'on paye leurs frais d'écolage dans cette grande école. Et ensuite, il va intégrer Columbia et il se casse la jambe. En octobre 1940, sa carrière est brisée. C'est à ce moment-là que on peut d'ailleurs, au fond, remercier le footballeur américain qui a cassé la jambe de Kerouac et qui l'a réorienté vers une carrière littéraire. Toujours est-il que c'est à ce moment-là qu'il rencontre Ginsberg et Burroughs, ainsi qu'un personnage assez étrange qui s'appelle Lucien Carr, C-A-2-R, qui va aussi beaucoup déterminer sa vie, puisque ça va le conduire à écrire son premier livre. Il se trouve que Lucien Carr est un beau jeune homme qui vient de Saint-Louis et qui subit les assauts assidus d'un dénommé Camérère, plus âgé que lui, Au point qu'un soir, ils sont dans un square pas loin de Columbia University, et Lucien Carr sort un couteau et plante son couteau dans le torse de Kammerer, qui sans doute meurt, on sait pas, en tout cas Lucien Carr panique, jette le corps dans l'Hudson, corps qui est retrouvé quelques jours plus tard, se précipite chez Burroughs qui lui dit va te dénoncer tout de suite à la police. Va ensuite chez Kerouac qui lui dit « Est-ce que tu as bien supprimé tous les indices ?» Et finalement, Lucien Carr va quand même se dénoncer. Les deux autres vont être interpellés et Kerouac va être emprisonné pour recel et complicité. Et il ne va sortir de prison qu'à la condition d'épouser sa première femme, puisque les parents sont d'accord de payer la caution, mais il faut qu'il y ait un mariage à la clé. Et c'est ces aventures qui vont être à l'origine d'un texte dont on a longtemps pensé qu'il avait disparu, au titre assez énigmatique, And the hippos were boiled in their tanks, c'est-à-dire et les hippopotames furent ébouillantés dans leurs cuves, titre énigmatique qui avait été aspiré. Alors c'est un texte à quatre mains avec William Burroughs, c'est-à-dire chacun écrit alternativement un chapitre. Et le titre avait été inspiré à Burroughs par quelque chose qu'il avait entendu à la radio dans un bar de New York, puisqu'il y avait eu à l'époque un incendie dans le zoo de Londres, et un des effets de cet incendie, ça avait été justement de voir quelques hippopotames ébouillantés dans leur cuve ou dans leur lieu. Et donc, ce premier texte, assez drôle, je ne dirais pas que c'était un chef-d'œuvre littéraire, mais c'est un texte drôle, assez déconcertant, relate toute la mésaventure tragique de Lucien Carr et va inscrire un autre cadavre sur la route de Kerouac après celui de son frère. Une fois qu'il est à New York, le grand enjeu pour Kerouac, c'est de s'échapper, c'est-à-dire d'échapper à l'étouffement maternelle, à l'étouffement de son milieu d'origine, et ça va être la route. Constamment, d'ailleurs, sa mère va le rappeler à une vie normale, et lui-même, il a des espèces d'anges comme ça qui visitent et qui habitent son journal, par exemple, et il est toujours pris dans le dilemme d'une mauvaise vie, ou alors de revenir à une vie normale, c'est-à-dire de rentrer à Lowell et dans le giron maternel. Mais dans les années, disons, à la fin des années 40 et des années 50, l'énergie est donnée à ce qui permet d'échapper à ce milieu d'origine, c'est-à-dire la découverte des grands espaces, de l'Amérique des pionniers et surtout celle des natifs. Si on peut voir l'image suivante. Oui, non, alors la suivante encore, là j'ai sauté celle-là. Voilà, ça c'est un. C'est un petit itinéraire qu'il se donne. Donc, c'est les traversées du territoire américain qu'il va faire, hein, je veux dire, en partant de New York jusqu'à San Francisco et retour par le sud. Et ce que j'aime beaucoup dans cet itinéraire, c'est la phrase en dessous, And all the great territories. C'est-à-dire que l'échapper, c'est vraiment aller vers le mythe des grands territoires, des pionniers, de ceux qui ont fait l'Amérique, dont il y a encore l'esprit qui règne dans cette Amérique-là, mais ce sont les derniers témoins. Hein. Y a un côté fantasme du western chez Kerouac, hein. C'est-à-dire passer de la dureté de l'Est à toutes les libertés promises, à toutes les possibilités promises par les grands territoires de cette vaste Amérique. Dans ce fantasme de la découverte de l'Ouest, Kerouac mêle beaucoup de strates. Une strate lyrique qui est souvent absolument merveilleuse. C'est là qu'on découvre le très très grand écrivain qu'il est. Une strate morale aussi, justement par rapport à cette perte de spiritualité des États-Unis. Une strate historique où il sent cette mutation historique d'un pays qui verse dans le consumérisme. Une strate mystique aussi, comme s'il y avait une âme qu'il fallait aller chercher. Et c'est un peu un Melville de la terre, du pays, du vaste pays d'Amérique, et sur la route est un peu un Moby Dick qui n'apparaîtrait jamais, me menacerait toujours, comme un rêve perdu, ou comme un fantôme. Peut-être d'ailleurs le fantôme du père, des pères, celui du père du narrateur, évidemment. Je vous rappelle la première phrase. I first met Neil just after my father died, juste après la mort de mon père. Et cette mort du père en 1946 va être un motif obsessionnel. Et la fin, dont je vous ai lu un extrait, qui se termine par la quête ratée du père de Neil Cassidy, c'est-à-dire l'alter ego de Kerouac pour ses traversées des États-Unis. Précisément, Neil Cassidy est le moteur, le personnage moteur pour cette découverte des grands territoires. Neil Cassidy, c'est quelqu'un qui est né dans une voiture à Salt Lake City, qui n'a jamais connu sa mère. Le père était un clochard ivre-mort. Et très vite, c'est la débrouille, c'est la rue. Il arpente les rues de Denver, puisqu'il passe toute sa jeunesse à Denver. Et ça devient une espèce de figure mythique dans les milieux de la bohème des américaine des années 40. Tout le monde en a entendu parler. Il a fait déjà de la prison. Et il arrive en décembre 1946 à New York. Et il va rencontrer Kerouac à travers un de ses amis de Denver, Hal Chase. Il va rencontrer Kerouac, il va rencontrer Ginsberg, il va rencontrer Burroughs. Et il va devenir une figure légendaire qui va beaucoup marquer toute la Beat Generation, et en particulier Kerouac. Et il y a l'existence attestée d'une lettre. Alors là aussi, il y a beaucoup de mythes. C'est une lettre en partie perdue, datée du 17 décembre 1950, c'est-à-dire 4 ans après la rencontre avec Kerouac. On a longtemps prétendu que cette lettre faisait 80 pages. Les mythes ont toujours besoin d'une certaine grosseur pour s'imposer. Il semblerait plutôt qu'elle en faisait 17. Il y a une partie qui a été publiée dans le livre publié par Flammarion de Neil Cassidy qui s'appelle Première Jeunesse. En tous les cas, cette lettre est une espèce de narration très spontanée de l'enfance et de la jeunesse de Neil Cassidy. Et elle va beaucoup marquer Kerouac. Je rappelle que cette lettre date du 17 décembre 1950 et que Kerouac engage le rouleau de la première version continue de On the Road le 2 avril 1951, c'est-à-dire 3 mois et demi après la réception de cette lettre. Ce qui le frappe dans Cassidy, c'est l'authenticité et le côté brut de sa confession, à laquelle d'ailleurs il répond quelques jours plus tard par une longue confession lui-même où il évoque beaucoup sa propre enfance et la figure de son frère Gérard. C'est une lettre qu'on peut lire dans la correspondance de Kerouac. Il y a donc Neil Cassidy comme élément moteur dans la découverte de la route, du voyage, du déplacement, et il y a aussi une autre figure qui est celle de Herbert Hunke, autre personnage haut en couleur. Je vais publier dans ma collection dans 2 mois un reader, c'est-à-dire une anthologie des textes de Herbert Hunke. Herbert Hunke, c'est quelqu'un qui a beaucoup frappé aussi Kerouac. Il dit, vous savez, il est peut-être aussi important que Neil Cassidy, enfin presque. C'est le plus grand diseur que j'ai rencontré. Et en effet, Hunke, qui est le personnage qui inspire à Burroughs son livre Junkie, Hunke donc est le guide vers les marges et les profondeurs, vers la vie underground, celle des junkies, des outsiders, des voleurs, des dealers, de l'errance. Quelque chose comme un héros à l'envers, l'équivalent urbain new-yorkais des trimardeurs. Cassidy, c'est le déplacement, la route, des heures et des heures et des jours de voiture sans s'arrêter ou presque. Il y a une magnifique scène sur la route où il roule, il fait très froid, il y a du givre, le pare-brise est complètement opaque parce que il est totalement givré, et Neil Cassidy baisse la vitre. Il sort la tête et il continue de rouler comme ça en guidant de la main droite dans la brume matinale. Donc Cassidy, c'est le mouvement, tandis que Hunke, c'est la ville, c'est les strates, c'est la profondeur des villes, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est la débrouille, la galère et l'amitié dans la grande métropole. Ce qu'il faut ajouter, c'est que dans le fantasme des grands territoires chez Kerouac, il y a quelque chose qui insiste dans toute son œuvre, ça mériterait presque une étude spécifique, c'est la recherche des racines et des natives, c'est-à-dire les Indiens. Et c'est très à l'œuvre, par exemple, dans son journal. Lui-même s'invente des ancêtres indiens. Et dans ce texte absolument merveilleux qui est Les Souterrains, donc Les Souterrains, c'est la transcription à San Francisco d'une expérience qu'il a vécue, lui, à New York, d'un amour fou, condamné, avec une jeune noire qu'il appelle Mardou. Donc il transpose ça dans le milieu des undergrounds de San Francisco. Et parce que je pense qu'il faut faire entendre la langue de Kerouac, mais aussi cette question des origines. Voilà un extrait des Souterrains. C'est elle qui parle, c'est un moment de folie de Mardou. Elle s'est réveillée le matin, elle est nue, elle sort du lit dans lequel elle est, et elle sort dans une impasse, dehors, dans l'aube brumeuse. Elle est nue, dehors. Et voilà. J'étais sans vêtements dans l'impasse, ça ne me gênait pas. J'étais si absorbé par cette prise de conscience de tout ce que j'avais, de tout ce que je savais que j'étais, une enfant pleine d'innocence. L'enfant nu, ouille, et je l'ai regardée en me demandant si elle, est-ce qu'elle disait la vérité. Elle était dans l'impasse à se demander qui elle était. La nuit, une fine bruine de brume, le silence de San Francisco endormi, les bateaux de la baie haut dans la baie, le linceul de grand brouillard à gueule griffue sur la baie, l'auréole de drôle de lumière fantomatique que projetaient au centre les arcades à truands d'Alcatraz à colonnades de temple, son cœur qui battait dans le silence, la peau fraîche et sombre, perché sur une barrière de bois, attendant, pour voir si une idée viendrait du dehors, lui dire quoi faire ensuite, et pleine de portée et de promesses, car il fallait que ce soit bien, et une fois seulement. Un seul faux pas dans le mauvais sens, le sens de son impulsion, devrait-elle sauter d'un côté ou de l'autre de la barrière? L'espace sans fin s'étendait dans quatre sens. Des hommes mornes chapeautés allaient à leur travail dans les rues luisantes sans se soucier de la jeune fille nue cachée dans la brume où, s'ils s'étaient approchés et l'avaient vue, ils auraient fait cercle autour d'elle sans la toucher en attendant simplement que vienne la flicaille pour l'emmener. Et de tous les yeux là, indifférents, éteints par la pâle honte, détaillant chaque partie de son corps, l'enfant nu. Plus elle reste perchée sur sa barrière, moins elle aura le pouvoir à la fin de vraiment en descendre et de se décider. Et en haut, Ross Wallenstein ne bouge même pas de ce lit de camé, croyant qu'elle est tapie dans l'entrée, à moins qu'il se soit endormi n'importe comment, enfermé en lui-même. La nuit pluvieuse clapote sur tout, embrasse partout hommes, femmes et villes en un flot unique de poésie triste, avec des lignes suaves d'anges haut rangés qui soufflent là-haut les chansons de paradis final, voilées comme l'Orient, immense comme le Pacifique, un terme à la peur ici-bas. Elle est juchée sur la barrière, la pluie fine pose des perles sur ses épaules brunes, des étoiles dans ses cheveux, ses yeux farouches, indiens à présent, regardent fixement le noir avec un peu de brume qui se dégage de sa bouche brune, la détresse comme des cristaux de glace sur la couverture des poneys de ses ancêtres indiens, la bruine sur le village autrefois, et la fumée de misère qui sortait en rampant de sous le sol, et quand une mère mélancolique pilait les glands pour faire de la bouillie en des millénaires sans espoir, la chanson de la tribu chasseresse d'Asie retentissant le long de l'ultime chaîne alaskienne de la terre et descendant jusqu'au désastre du Nouveau Monde. Dans leurs yeux, et maintenant dans les yeux de Mardou, l'éventuel royaume d'Inca Maya et la vaste Azteca, brillant de serpents d'or et de temples aussi nobles que les Grecs, L'Égypte, les puissantes mâchoires longues et lisses et le nez épaté de mongoliens, de génies créant des arts dans des salles de temples, et l'élan de leurs mâchoires pour parler jusqu'à ce que les Espagnols de Cortés, les miséreux Hollandais, là, vieux monde, efféminés, pantalonnés de Pizarro, soient venus en écrasant les roseaux dans les savanes découvrir les cités scintillantes des yeux indiens, hautes, perspectivées, boulevardées, ritualisées, blasonnées, pavoisées de ce même soleil du nouveau monde auquel un cœur battant était présenté. Son cœur à elle battant dans la pluie de Frisco, sur la barrière, face aux faits décisifs, prête à aller courir le pays tout de suite et à retourner se recroqueviller là où elle était et où tout était, se consolant avec des visions de la vérité, descendant de la barrière sur la pointe des pieds, faisant quelques pas, trouvant une entrée, frissonnant, se dissimulant. C'est extraordinaire, je trouve, cette espèce de grossissement, c'est-à-dire de vision de la femme nue, seule, prise dans un moment de folie, d'égarement, et la propre folie fantasmatique de Kerouac qui vient se greffer là-dessus, qui enfle petit à petit, qui retrouve justement les natives américains, c'est-à-dire les Indiens, mais ensuite les Indiens d'Amérique du Sud, et puis finalement, dans cette quête d'origine, la planète entière qui est convoquée jusqu'à l'Orient, tout ce magma des origines se retrouvant dans le regard et dans le visage de la petite Mardou, jeune noire égarée dans San Francisco. Donc, c'est un écrivain américain désireux de découvrir l'Amérique, porté par le grand rêve de l'Ouest, mais c'est un écrivain américain étranger à sa propre langue. Dans son journal de 1950, intitulé sur le cahier Road Log, c'est-à-dire carnet de route, Kerouac évoque une apparition qui me semble d'une extrême importance. C'est en date du 19 mai 1950, donc on est avant, un an avant, grosso modo, le scroll, et il relate une vision survenue deux semaines auparavant, sous l'effet de la marijuana. Il s'agit d'un, je cite, « frère aîné franco-canadien », qui se proclame, je cite, « ambassadeur du bon Dieu », mais que Kerouac identifie comme son original self, c'est-à-dire son moi original. Il écrit « Le frère vint à moi, tout à fait incarné, dans une vision d'herbe il y a 15 jours, et qui est depuis toujours avec moi. » Le frère accuse Kerouac d'essayer de supprimer son identité canuque, et là je cite assez longuement « Ce premier matin, il affirma plusieurs choses. Allen Ginsberg et Meyer Shapiro et Kazin, qui était le professeur de Kerouac à la New School, donc Ginsberg, Shapiro et Kazin, étaient de grands hommes parce qu'ils n'essayaient pas de se déjuiver, déjouer, eux-mêmes. Et c'est pourquoi je ne devais pas essayer de me défranciser moi-même. Aussi simple que cela, il me disait que Carr était un sale con, que Neil était ok même si c'était un excité. Il me disait d'envoyer paître mon amour féminin et de le faire esprit, et des choses comme ça, toutes simples, directes et vraies. Il me disait même d'aller à l'église et de la fermer, d'arrêter de me plaindre. Il insinuait que je devrais aller à Lowell, ou au Canada, ou en France, et redevenir un Français, et écrire en français, et la fermer. Il continue de me dire de la fermer. Quand je ne peux pas dormir parce que mon esprit résonne de gongs de pensées et de phrases en anglais, il dit « pense en français », sachant que je vais ainsi me calmer et trouver le sommeil en toute simplicité. Je vais prendre ce frère avec moi au Mexique et voir ce qui se passe. Souvent il dit « mange » et je me lève et je mange. Je pense qu'il est mon moi originel qui revient après toutes ces années depuis que j'étais un enfant qui essayait de devenir un anglais à Lowell par honte d'être un canuc. Je n'avais jamais réalisé auparavant que j'avais éprouvé les mêmes sentiments que tout juif, grec, nègre ou italien éprouvant l'Amérique, si intelligemment que je les avais dissimulés, même de moi-même, si intelligemment et avec un si talentueux et renfrogné aplomb d'enfant. » Voilà, je crois que ça, c'est inédit en français, ça, c'est dans le journal. Et c'est extraordinairement important. On est en 1950 et on voit l'espèce de surmoi qui s'adresse sous une forme d'apparition angélique à Kerouac et qui crée un vrai dilemme sur le choix de la langue. Il y a des variantes, plus tard en 1950, de ce frère qui devient alors un cousin, ou les deux mélangés, le cousin-frère. Sans doute, cette figure révèle-t-elle un aspect de Jack Kerouac, qu'il s'avoue à lui-même ne pas être encore dans sa vérité lorsqu'il écrit. Je rappelle qu'on est là au moment où vient de paraître The Town and the City. Et cette figure du frère ou du frère-cousin l'enjoint à être au plus proche de ce qu'il est et pense. Il doit trouver sa vraie voie d'adulte. Dans une autre ébauche ou proto-version de On the Road, qui simule une mise en page de journal, si on peut voir l'image suivante. Voilà, vous voyez, c'est sans doute l'influence du père qui travaille dans une imprimerie. Il fait une ébauche de On the Road avec la simulation d'un journal qui s'appellerait American Times, vous voyez, avec la date, et puis la suite est datée, ça s'échelonne sur 5 jours, comme ça, comme si c'était paru dans un journal. Et dans cette ébauche-là, le cousin qui interpelle et donne des ordres s'appelle ni plus ni moins Bonaparte. C'est une période charnière. Kerouac est au seuil de trouver sa voie et il hésite quant à la langue. Dans son journal des années 50, ça aussi c'est très intéressant, il arrive parfois qu'il écrive d'abord un paragraphe en français, c'est-à-dire en joual, pour le traduire aussitôt, comme si le français, c'est-à-dire la langue maternelle, lui permettait d'exprimer au plus près et prioritairement sa vérité. Fin 50 ou janvier 51, Kerouac rédige 10 pages d'un manuscrit intitulé « On the Road » écrit en français. Et en février 1951, il écrit un manuscrit de 57 feuillets, février 51. Donc 3 semaines et demie, 1 mois avant l'écriture du scroll, en français toujours, intitulé « La nuit et ma femme, les premiers travaux de Michel Bretagne », qui est la dernière préversion du scroll dans lequel il s'engage donc le 2 avril. On peut peut-être voir l'image suivante. Voilà, ça c'était un extrait. Vous voyez, en bas c'est en anglais, mais on voit en haut cette écriture dans ce français un peu spécial qu'est le joual. Et dans ce texte, il écrit ce sentiment de déplacement linguistique, je cite, « J'ai jamais eu une langue à moi-même. Le patois français jusqu'à 6 ans, et après ça, les grosses formes, les grandes expressions de poètes, philosophes, prophètes, avec tout ça, aujourd'hui, tout mélange dans ma tête. » En gros, Kerouac va écrire en dehors de la langue de l'enfance. Il fait le choix de l'anglais comme une langue apprise, tardive, une langue littéraire. Hein. C'est impressionnant ce qu'il dit, les grandes expressions de poètes, philosophes, prophètes. De ce handicap éventuel, il va faire un atout en travaillant la langue anglaise comme nulle autre, une langue qu'il entend dans sa sonorité avant d'en entendre le sens, la signification, et c'est cette écoute fondamentale de la langue, cette oreille écrivant, qui va fonder sa propre voix, très influencée sans doute par le jazz bebop, par l'action painting aussi peut-être, dont il est le contemporain, et qui va lui permettre d'inscrire le poétique dans la prose, de dépasser totalement la question de l'intrigue, de la trame romanesque, ou désespoir de ses éditeurs, pour s'adonner à un exercice de l'épiphanie, restitué avec une formidable veine lyrique par moment. Je crois que c'est toujours évidemment la difficulté de parler de Kerouac en français, et à ce point, j'aimerais qu'on écoute juste 2 minutes avec cette idée-là de cet auteur, de cet auteur qui était l'enfant qui parlait français chez lui, et qui donc, dans les premières années, qui sont des années extrêmement importantes pour la formation d'une langue et d'un imaginaire, pour qui l'anglais était une langue étrangère dont il captait comme ça des moments lorsqu'il se promenait dans la ville, mais qui n'était pas sa langue familiale ni familière. Un extrait de Kerouac se lisant lui-même.
Curl-sconced guy with a bull neck who didn't give a damn about anything but punishing his tubs. crash.
On pourrait bien sûr l'écouter.
Uproars of music.
Je sais pas si on m'entend en cabine.
And the man had it, and everybody knew he had it. And Dean was clutching his head in the crowd, and it was unbelievable.
Voilà, je vais pas traduire parce que je crois que justement il faut pas traduire, il faut écouter. C'est quand même un avantage considérable qu'on a par rapport à Kerouac, c'est qu'il a lu beaucoup de son œuvre. Il n'y a absolument pas de hasard à ce que une partie de l'œuvre soit lue accompagnée au piano par Steve Allen. Et on voit bien, hein, on voit bien la métrique qui se reproduit de phrase en phrase. Ce côté très, cette quête de la sonorité, de l'allitération, de l'onomatopée, toutes sortes de mécanismes en jeu dans l'écriture, qu'évidemment aucune traduction ne peut restituer. Il faut pas se leurrer, mais qui dit bien à quel point justement il y a la sonorité presque en préalable à la construction du sens. C'est-à-dire qu'il y a dans tous les textes de Kerouac cette prosopopée d'une certaine façon, ou cette façon d'entendre la langue. La langue se met en œuvre par sa sonorité et produit secondairement du sens. Une fois qu'il a démarré, une fois qu'il a trouvé sa voix, Kerouac va écrire l'essentiel de son œuvre en quelques années. En gros, ça se passe de 51 à 57, 58. L'essentiel est là. Le bloc de l'œuvre est écrit en 5-6 ans. Après, il va ajouter, reprendre, enfin, tout ce... Il écrit à peu près toute son œuvre dans le moment d'inquiétude, d'angoisse qui sépare la publication de son premier livre de la publication, enfin, de Sur la route, en 57. On peut dire que, au fond, c'est un grand-père de l'autofiction, puisque c'est une vaste utilisation du substrat autobiographique qui est faite. Il y a des variations dans le nom des narrateurs. Il y en a deux qui appellent quand même un rapide commentaire. Le narrateur de Sur la route, qui s'appelle Soul Paradise, qui est l'abréviation Soul, pourrait venir de Sad, S-A-D, Sad Paradise, qui fait partie d'un vers d'un poème de Ginsberg, mais plus vraisemblablement c'est l'abréviation de Salvatore. Et je vous laisse commenter pour vous-même l'effet de sens de s'appeler soi-même Salvatore Paradise, c'est-à-dire le sauveur paradis. De la même façon que dans Les Souterrains, il prend un autre nom, lui aussi très lourd de sens, puisqu'il s'appelle Léo Percepied, pour se désigner comme l'amant. Hein. Les Souterrains, cette merveilleuse... Je vous rappelle que Gilles Deleuze a qualifié Les Souterrains de plus beau roman d'amour du XXe siècle. Et je lui donne parfaitement raison. C'est une extraordinaire histoire d'amour portée par la fatalité de son échec, avec un Kerouac qui est constamment déchiré entre... vivre cet amour destructeur pour Mardou ou se protéger et rentrer chez sa mère pour écrire. Et c'est dans ce constant dilemme qu'est orchestré le texte. Et il prend donc là le nom, comme jeune amant, le nom de Léo Percepied. Léo, c'est le prénom de son père. Et Percepied, c'est une allusion à Proust, sans doute, puisque c'est le docteur Percepied. Mais enfin, dans Percepied, on ne peut pas se retenir de voir la figure au pied percé, qui est Édipe. Et là, il prend le prénom du père plus le symptôme édipien. Je crois que le cryptage mérite quand même un détour. Toutefois, les noms divers de ces narrateurs retiennent l'attention, mais... cette dispersion était provisoire, elle devait être résolue dans sa tête par des retouches tardives destinées à unifier l'œuvre pour en faire un seul et grand roman, celui de la vie et du destin de Jacques Dulleuze, sous le titre général « La légende des Dulleuze ». Et voici ce qu'il écrit en 1962 en préface à « Big Sur », un texte plus tardif. Mon œuvre, comme celle de Proust, ne comprend qu'un livre unique aux vastes dimensions. Cependant, mes expériences ont été décrites au fur et à mesure, et non après coup, sur un lit de malade. Étant donné les objections de mes éditeurs, je n'ai pu attribuer les mêmes noms à mes personnages dans chacun des volumes. Sur la route, The Subterraneans, Les Clochards Célestes, Dr. Sachs, Maggie Cassidy, Tristessa, Desolation Angels, Vision Cody et les autres ouvrages, parmi lesquels figure celui-ci, Big Sur, ne sont que des chapitres de l'œuvre que j'ai intitulée La légende des Duluoz. J'ai l'intention, au soir de ma vie, de procéder à une édition complète de tous mes livres, en rendant à mes personnages le nom qui leur avait été destiné à l'origine. Je laisserai un long rayon bourré de livres et je mourrai content. Tout cet ensemble forme une énorme comédie, telle que l'a vu le pauvre Tigeant, votre serviteur, connu également sous le nom de Jack Duluoz. C'est un monde échevelé, un monde de démons, mais aussi un monde tendre et aimable que l'on voit, comme par un trou de serrure, à travers l'œil de Tigeant. À vrai dire, l'idée de ce grand ensemble, sur un principe, disons, balzacien, hein, de la comédie humaine, ou proustien, précisément comme il l'évoque, apparaît très tôt, apparaît avant même l'écriture du premier livre. Si on peut voir le document suivant, c'est ce qui s'appelle le Testament, Liverpool Testament, donc rédigé, c'est un texte qui a rédigé en 1943, quand Kerouac s'est engagé dans la marine marchande. Il arrive à Liverpool et vous voyez que il évoque déjà là, alors qu'il n'a pas encore écrit une ligne de tous les romans qu'il va écrire, il évoque là déjà la légende de Duluoz et comme cryptage ou déplacement de la légende de Kerouac. Respirer un autre air et échapper à cette espèce d'instinct de mort qu'il y a dans sa famille. Et puis il y a, alors c'est à ce moment-là que toute l'œuvre s'écrit, et puis il y a, à la fin des années 50, l'épisode précisément de Big Sur, c'est-à-dire Kerouac se trouve sur la côte ouest, Ferlinghetti, qui était un éditeur libraire, le fameux libraire de la Library City Lights à San Francisco, lui propose d'aller se reposer et faire le point dans une petite cabane qu'il a au bord de l'océan, et ça va être un cauchemar pour Kerouac, et c'est la fin. C'est-à-dire qu'il est complètement dépassé, angoissé, et c'est la fin de l'échappée. À ce moment-là, il ne croit plus au grand territoire. Et par exemple, il écrit le 18 avril 1960, c'est dans une page inédite de son journal conservé à la Public Library à New York. J'ai traduit moi-même. J'ai réalisé la nuit dernière combien j'étais vraiment malade et fatigué d'être un écrivain et beat. Ce n'est pas moi du tout, même si tout le monde continue de me ramener à cela. C'est pourquoi je veux rester seul avec les stupides bêtes de la campagne, de façon à commencer à me sentir à nouveau comme Tigeon, au lieu d'être ce bon dieu de Jack Kerouac, il écrit K-A-2-R-A-W-H-E-K, le monstre qu'ils ont construit dans leur papier prend forme dans mon corps comme l'étranger de Burroughs, par simple procédé de répétition sans fin de l'insinuation. Ils vont continuer à insister pour que je revête leur notion préconçue du capitaine des beatniks, comme si j'étais une sorte d'insurrectionniste barbu dégénéré. Et c'est le retour dans le giron maternel, ce qu'on pourrait appeler la vengeance de mes mères. Ils vont continuer à se déplacer entre la Floride et Long Island, mais il est vraiment rentré, il est le fils docile, c'est l'échec de l'échappée. On peut voir une première photo de ça, absolument terrible. Je crois que cette photo en dit long. Il est avec sa mère, derrière, avec ce regard qui tombe, cette espèce de profonde mélancolie. Il va choisir, comme je l'ai dit, la mort lente, la plongée dans l'alcool. Il se marie tardivement, on peut voir la photo suivante. C'est sa femme. En fait, c'est la compagne d'un homme qui a beaucoup compté, c'est la sœur, pardon, d'un homme qui a beaucoup compté quand il était jeune. Le parcours de Kerouac est jonché de cadavres. Hein. Il y a le frère, le père, il y a Sébastien Tsampas, qui fait partie de la communauté grecque de Lowell, qui est quelqu'un de très très cultivé. Ils sont lycéens ensemble. Ils se récitent des poèmes la nuit quand ils se retrouvent dans Lowell. Et Sébastien Tsampas va mourir lors du débarquement américain en Italie. Il est blessé sur la plage d'Anzio et il meurt dans un hôpital à Alger. Et il va demeurer comme ça la figure tutélaire. Là aussi, Kerouac continue toute sa vie de penser que le vrai écrivain, c'était Tsampas. Le vrai fils, c'était Gérard. Le vrai écrivain, c'est Tsampas. Il y a cette espèce de sentiment d'être un imposteur chez Kerouac, et il finit par épouser Stella Tsampas, à qui il chante mélancoliquement et romantiquement Stella by Starlight quand il est pas mal ivre sur son rocking chair. Et il y a quelque chose d'extrêmement poignant dans la fin de la vie de Kerouac. Il y a dans les dernières œuvres, je vous l'ai dit, la légende du Luos, qui est un magnifique texte, mais dont l'essentiel est écrit dans les années 50 et qu'il reprend comme s'il s'adressait à cette Stella. Et puis, il y a un livre troublant, très beau. C'est pas le plus connu. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un livre qui titube. C'est un livre qui boitille et qui est magnifique, qui s'appelle Satori à Paris, puisque précisément, les années 60 pour Kerouac, c'est ce que j'appelle la revanche de mes mères, c'est-à-dire c'est le retour de la française. Et il va s'engager dans une quête des origines, et notamment une quête des origines françaises. Et il va venir en France en 1965. Il était déjà venu une fois, mais de façon très rapide, comme ça, entre Tanger et Londres en 1957. Là, il vient expressément pour retrouver ses origines bretonnes, de Kerouac. Alors, il a toutes sortes de fantasmes. Il arrive à Paris, tout se passe mal. Il va à la BN, les archives. On lui dit partout que les archives ont brûlé pendant la guerre, que les archives ont été détruites. Donc, la BN, c'est un échec. Il va aux Archives nationales, c'est un échec. Il va à la Bibliothèque Mazarine, il ne trouve rien. Il finit par aller jusqu'à Brest après avoir raté son avion. En fait, tout est une série d'échecs noyés dans l'alcool. Il va jusqu'au fond de la Bretagne, jusqu'à Brest, où il rencontre un Lebris avec lequel il fantasme des origines lointaines communes. Et il finit par repartir en n'ayant absolument rien trouvé. Mais en ayant le sentiment d'avoir vécu un moment fondamental de vérité qu'il n'arrive pas à identifier. Et il y a, je ne sais plus si c'est à la fin ou au début du livre, il répertorie comme ça toute une série de moments où il sait qu'il a eu un satori, c'est-à-dire un moment d'illumination, quelque chose comme la vérité révélée, mais il ne sait pas exactement à quel moment. Et donc c'est le catalogue, c'est la narration de ce périple assez catastrophique et de ces possibles visions ou possibles satori qui compose ce très beau livre intitulé Satori à Paris, mais qui est vraiment un livre de la fin. Et Jack Kerouac meurt en 1967. En 1969, à l'âge de 47 ans, et il est et reste à mes yeux cet écrivain entre deux langues dont la vérité est précisément de n'être pas vraiment un écrivain anglais et de ne pas être tout à fait un écrivain français, mais d'avoir su créer une position de langue et une position d'écriture de l'écoute sans doute à nul autre pareil, et qui lui a permis justement d'inscrire dans sa prose spontanée, expression dont il faut se méfier, le poétique qu'il a pratiqué par ailleurs dans d'autres livres. Voilà pour ce parcours à travers la vie et l'œuvre de Kerouac. Le film que vous allez voir maintenant est plus lié, je dirais, à la vie, mais il y a un certain nombre d'archives très très touchantes. Le film n'échappe pas totalement au mythe du voyageur. Je crois en tout cas que ce qu'on peut dire, c'est que Jack Kerouac est tout sauf un écrivain voyageur. Merci. C'est pas vraiment le cas. En revanche, il y a beaucoup de scènes sexuelles qui ont été sucrées par les éditeurs américains dans les années 50, qui reviennent. Enfin, elles sont pas monstrueuses non plus. Hein, je veux dire, il y a une espèce de partie fine à un moment donné, et il y a des mots très crus, quoi. Dès la deuxième page, quoi. Il y a le mot fuck qui apparaît quand Neil Cassady, est dérangé par ses amis qui viennent le voir. Il est avec Luann, sa compagne de l'époque. Sur l'homosexualité, non, c'est pas du tout aussi clair que ça. En revanche, c'est vrai que, disons, l'homosexualité qui l'entoure, elle, apparaît beaucoup plus clairement. C'est-à-dire, c'est vrai que, et notamment la liaison assez longue qu'il y a entre Ginsberg et Neil Cassady, apparaît très clairement. Et prend c'est une question très très complexe. Lui-même, y allait avec beaucoup de prudence et on ne sait pas très bien. Je crois que tout ça demeure dans le tombeau.